À Rencontre spirituelle aujourd'hui, sera question d'un Québécois d'origine française qui est né en France, mais c'est un saint d'ici, qui n'est pas canonisé, il est mort en 1920, mais qui est considéré par beaucoup de gens comme un saint. C'est l'abbé Alexis-Louis Mangin, M-A-N-G-I-N, Mangin, qui est le fondateur de ces contemplatives qu'on appelle les Servantes de Jésus-Marie à Hull. Vous vous souvenez peut-être quand le pape est venu au Canada, il est allé à Hull chez ces religieuses-là, puis il est allé leur parler, et ce qu'il leur a dit est absolument extraordinaire. C'était publié en particulier par les éditions Pauline dans Jean-Paul II au Canada, n'as-tu pas tous les discours, avec une introduction du père Benoît Lacroix, et puis je vous en lirai au besoin un petit passage si j'ai le temps. Il est allé là le 19 septembre 1984. Alexis-Louis Mangin, donc ce fondateur, est né à Liège. Il ne suis pas un Français, c'est un Belge, où avais-je la tête? De parents foncièrement chrétiens, mais quelques mois après sa naissance, sa famille est allée se fixer en France, à Rambervilliers, c'est-à-dire en Lorraine, n'est-ce pas, près de l'Allemagne. C'est son pays d'origine, d'ailleurs. Pardon. Il s'est installé avec sa famille dans un domaine appelé Château des Capucins. Étrange nom, Château des Capucins, parce qu'il avait autrefois appartenu à ces religieux, les Capucins. Ce château était reconstruit sur l'emplacement et avec les mêmes matériaux qu'un ancien monastère de bénédictines. Des bénédictines, justement, qui étaient vouées à l'adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement, comme les sœurs qu'il va fonder à Hull. La propre sœur, d'ailleurs, de Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort, la Guyonne Jeanne. Avez-vous déjà entendu ce prénom, Guyonne, ou Guyonne, si vous préférez, G-U-Y comme Guy, puis On comme la fin de Yvonne, c'est un joli prénom. Guyonne Jeanne, ben, la sœur, donc, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, figurait parmi les membres de cette communauté de bénédictines vouée à l'adoration du Saint-Sacrement. Et, Alexis-Louis, n'est-ce pas, Mangin, a peut-être pris là l'idée de fonder une œuvre eucharistique dont la spiritualité assez mariale est intimement liée à celle de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est un beau petit bonhomme, hein, aux boucles blondes. Il va devenir un homme solide, avec une barbe foncée, des cheveux courts, un regard de feu. Quand il était enfant, c'était un petit bonhomme aux boucles blondes, oui, toujours vêtu de blanc et de bleu. Durant sa petite enfance, il est d'une intelligence, dit-on, qui était très vive. Il avait une mémoire prodigieuse. Il avait un esprit inventif aussi. C'était un enfant qui avait quelque chose au cœur. Il est affectueux, enjoué. Il est même un peu turbulent, puis taquin. C'est un petit personnage qui tient beaucoup de place dans le cercle familial. Il y a des rêves qui lui viennent à l'esprit. Il rêve de devenir missionnaire. C'est ce qu'il va faire. Il va venir comme missionnaire ici, chez nous. À 7 ans, donc, en Lorraine, il se promène avec une longue croix de bois dans le petit bois, justement, attenant au château de ses parents. C'est un endroit qu'il surnomme sa mission. Hein. Dans le temps, c'était très populaire, les missions. Les prêtres allaient en mission en France, dans différentes régions, pour convertir et ramener à la foi les gens. Alors, il dit qu'il va évangéliser les peuples. Il est enfant, il rêve. Il se fait élever une plateforme, d'ailleurs suspendue entre 4 arbres du bosquet dans le jardin. Il s'y retire entre ciel et terre pour faire, dit-il, sa méditation. Et il n'est pas question de le déloger de là. Il grogne comme un tigre. Sur de petits autels improvisés, il célèbre sa messe. Enfin, une messe d'enfant. Il a soin de ne jamais omettre le sermon, évidemment. C'est le point culminant de sa célébration. Alors là, il s'attaque aux défauts de ses grandes sœurs. C'est amusant. Mais quand il parle de sa mère, évidemment, c'est avec beaucoup de tendresse. Puis, il aime bien aussi parler de la Sainte Vierge, qu'il considère comme sa mère du ciel. Monsieur Mangin dit à sa femme, « Tu verras, ce petit va devenir prêtre, c'est sûr. » Et Louis a la douleur de perdre son père qu'il aimait, à l'âge de 8 ans. Devant la tombe ouverte, il promet de ne jamais faire de peine à sa mère. Il va tenir parole. Pour l'instant, il demeure un enfant aimé, choyé par sa mère, et aussi ses 3 sœurs. Ça fait un entourage exclusivement féminin qui est baigné de délicatesse. Ça ouvre son âme quand même à une relation de plus en plus tendre envers la Sainte Vierge, la mère de Jésus, la femme par excellence à ses yeux. Il a bien raison. Alors Louis Mangin fait son cours primaire chez les frères de Marie. Encore une espèce de grâce qui le dirige vers une grande dévotion à la Sainte Vierge. C'est un élève brillant mais dissipé. Il lui arrive d'essuyer d'ailleurs des réprimandes, des punitions. Ça peut consoler bien des parents qui ont des enfants qui se font disputer à l'école. Hein? Alors qu'est-ce qu'il fait alors? Il va tout simplement s'agenouiller à l'autel de la Sainte Vierge pour imprimer la force de garder le silence en classe. Et puis de garder aussi bouche cousue devant l'humiliation, puis d'avoir aussi le courage de ne pas se venger. Hein. Et son recours à la Sainte Vierge est devenu familier. Alors, entré comme pensionnaire chez les Pères du Saint-Esprit, dont je vous ai déjà parlé, Louis a le bonheur de recevoir la Sainte Eucharistie pour la première fois. C'est une grande fête pour lui. Son âme jubile, et à partir de ce moment-là, il se rend tous les jours au pied du Très-Saint-Sacrement pour une pause d'adoration, même s'il y a des compagnons d'études qui se moquent de lui. Et son amour pour Jésus, hostie, sa dévotion envers Marie sont comme 2 flambeaux. Voici d'ailleurs un trait assez sympathique qui est raconté par l'abbé Mangin lui-même. Il dit « Je ne me rappelle pas, quand j'ai commencé à aimer la Sainte Vierge, il me semble que je l'ai toujours aimée. Ce dont je me rappelle, c'est qu'au petit séminaire, avant de faire ma première communion, vers l'âge de 10 ans, mon professeur me demanda un jour si je dormais bien. « Oui, ai-je répondu, excepté quand il fait très chaud. Et que faites-vous quand le sommeil tarde à venir? Ben, je dis, souvenez-vous à la Sainte Vierge. Et la nuit, vous éveillez-vous? Oh oui, des fois. Et que dites-vous? Mais dis, je dis encore des souvenez-vous. Et vous, vous souvenez-vous du souvenez-vous? Oui. » On récitait ça souvent autrefois, hein, « Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer votre secours, ait été abandonné. Alors animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ma mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. » Alors, peu de temps après, un professeur qui se trouve à une des récréations s'entend dire, « Voilà un petit garçon qui dit toujours le souvenez-vous avant s'endormir et la nuit lorsqu'il s'éveille. » Et lui, en entendant ça, il reste surpris, car il croyait que tous les enfants faisaient comme ça. À 13 ans, Lixi Louis Mangin entre au collège, à Nancy, en Lorraine, toujours. Il y est reçu bachelier, à 20 ans. Puis, il se dirige successivement vers le grand séminaire de Saint-Dié, le séminaire français de Rome. Ordonné diacre en 1881, il est ordonné finalement prêtre le 16 avril 1881, la même année, le mois suivant, dans une chapelle de Carmélite, qui est un ordre dédié à la Sainte Vierge. Le lendemain, il célèbre sa première messe dans l'église cathédrale de Velletri. C'est tout près de Rome, c'est une ville très, très pittoresque près de Rome, c'est très beau. Il la célèbre à l'hôtel de Notre-Dame-de-Grâce, et dans le secret, Marie semble lui fixer un futur rendez-vous, on pourrait dire, à la paroisse du même vocable, à Hol, qui s'appelle Notre-Dame-de-Grâce, où il va s'élever la maison mère de l'institut qu'il va fonder. Et enfin, Alexis Louis Mangin a réalisé le grand rêve de son enfance. Il est prêtre pour toujours. Et alors, il souligne le rôle du prêtre dans la distribution des sacrements, puis il ajoute dans un texte, « Nous cherchions l'autre jour les rapports de Marie et du prêtre dans l'Eucharistie. » C'est là le point central. Je n'ai plus encore y pénétrer. C'est trop beau. Bien trop sublime pour moi. Mais j'en pressens les merveilles inouïes. Si le prêtre les connaissait, il mourrait d'amour. Je ne sais pas si ces choses-là peuvent être comprises sur la terre. Il faudrait le génie de saint Thomas, le regard d'aigle de saint Jean. Peut-être viendra-t-il des prêtres qui le comprendront, et alors ils mettront le feu sur la terre. Et en vérité, l'abbé Mangin expérimente par le cœur une réalité mystique, pour ainsi dire inaccessible à son intelligence. Alors, de retour en France, après son ordination sacerdotale en Italie, l'abbé Mangin se livre à des études scientifiques à l'Institut catholique de Paris. Puis, il est successivement professeur à Metz, c'est en Moselle, ça, donc en Lorraine encore, près de l'Allemagne, là, d'où il est expulsé par les Prussiens et les Allemands. Puis à Rambervilliers, où sa famille avait ce château-là. Ici, il anime un patronage, puis un cercle catholique, dont il est le fondateur. C'est un homme actif. Un jeune ouvrier dira à son sujet à Madame Mangin, « Votre fils, c'est pour nous l'image du Christ qui est passé sur la terre en faisant le bien. » Alors, 4 ans après son ordination, en 1885, pour répondre à un appel qu'il ressent au fond lui-même, M. Mangin part pour l'Amérique. Il débarque à Halifax le 15 août, puis il dit sa première messe en sol canadien, donc en la fête de l'Assomption de Marie. Ce mystère l'inspire prophétiquement. C'est curieux. 50 ans avant Vatican II, il écrit à l'Annonciation, le jour même où le Saint-Esprit conçoit le Messie en elle, il dit « Marie devient mère de Dieu ». Je vais vous en parler d'ailleurs le 25 mars, je vais parler de la même question. Il ajoute « Mais elle n'est pas mère de l'Église à ce moment-là, à l'Assomption seulement, à la fin de ses jours, quoi. Nous célébrons le complément de ses grandeurs et de sa mission. Nous saluons Marie devenue mère de l'Église. À partir de l'Assomption, Marie a pu exercer pleinement au ciel, dire la maternité envers l'Église qui lui avait été assignée au calvaire par son fils Jésus. De 1886 à 89, l'abbé Mangin, curé à Chénéville, au Québec. À son arrivée à Masson, en 1889, vous voyez que c'est bien un Québécois, finalement, comme curé fondateur de la nouvelle paroisse de Notre-Dame-des-Neiges encore, M. Mangin trouve une église où la pratique religieuse laisse beaucoup à désirer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait comme le curé d'Ars. Il passe de longues heures en prière au pied du tabernacle. Mais oui, c'est ça qu'on fait. De longues heures au pied du tabernacle, quand on est curé. Il jeûne et se livre à la pénitence pour se discipliner, faire de la place à Dieu en lui-même. Sa campagne contre l'alcool est couronnée de succès. Il sait si bien gagner les cœurs par le rayonnement de sa charité et sa prédication que tout son apostolat se trouve fondé sur l'amour. Afin de mieux promouvoir donc le culte eucharistique dans sa paroisse, l'abbé Mangin s'applique à y développer le culte marial en même temps. La congrégation des enfants de Marie, établie dès le début, ça produit des effets heureux à l'époque. Aujourd'hui, ce serait presque impossible de faire ça. Pourquoi, je ne sais pas. La ferveur s'accroît donc. La foi s'approfondit. Et leur sainte, savez-vous ce que c'est, les jeunes, leur sainte, c'est une heure d'adoration du Saint-Sacrement. Et c'est prêché aussi. Puis il y a le chapelet, récité chaque soir. Les litanies aussi de la Sainte Vierge sont chantées le samedi. Et ça, ça devient, en même temps que leur sainte, des espèces de lieux de rencontre où les fidèles sont heureux d'accourir. Et bientôt, le travail du dimanche cesse dans sa paroisse. L'église se remplit de fidèles attentifs à la voix de celui qu'ils aiment bien, ce monsieur le curé Mangin, qui ne se présente jamais seul à l'autel. Il dit toujours que c'est avec sa bonne maman qu'il va à l'autel, la mère des douleurs. C'est avec elle qu'il offre le divin sacrifice, dit-il. Et bien avant le décret de Pie X sur la communion quotidienne, vous savez, c'est le pape Saint Pie X qui a propagé la communion dite fréquente, au début du siècle. Mais l'Eucharistie était pour lui ce qu'il appelle la bonne nourriture que la Vierge Mère nous a préparée et qu'il faut recevoir chaque jour avec amour et confiance. Elle nous l'a préparée en enfantant le Christ, Jésus, qui a établi ce mystère extraordinaire de l'Eucharistie. Monsieur Manger entoure aussi de vénération tous les objets du culte. Puis là, il aime beaucoup son bréviaire. Il dit « Ah, que je l'aime, mon bréviaire. Je l'embrasse chaque fois que je m'en sers. » Et dire que je le récite si mal. Mais j'espère que la Sainte Vierge va me convertir. Elle est si bonne. Et je l'invite à dire les psaumes avec moi. C'est bien, hein? Je l'invite à dire les psaumes avec moi. Alors, à ces religieuses, il conseille également de considérer leur livre d'office comme le cœur de Marie, lequel conservait précieusement, dit-il, le cœur de Marie, toutes les paroles, tous les gestes de Jésus. Alors, il a fondé à Hol, les sœurs de Jésus-Marie, ainsi, tout lui parle de Marie, tant il respire en sa présence, n'est-il pas la reine de son cœur. Puis, dès qu'il va connaître l'association des prêtres de Marie fondée par les Montfortins, il va y adhérer avec ferveur. Puis il va ajouter ce titre à la signature de son nom. Au printemps 1890, a lieu la première rencontre de l'abbé Manger avec Éléonore Potvin, c'est là qu'il va fonder. C'est une femme, celle qui vit déjà une union très intime avec la Sainte Vierge. Et des liens surnaturels profonds s'établissent donc entre cette jeune ménagère de 25 ans, puis son guide spirituel, ce prêtre qui en a 33. Et leur amour envers l'Eucharistie, puis leur attachement à la Sainte Vierge, les engage à travailler ensemble à cette fondation d'un nouvel institut contemplatif et cloîtré à Hol. Éléonore Potvin est favorisée de grâces mystiques assez curieuses. À plusieurs reprises, elle prétend, puis il semble bien qu'elle est équilibrée, que ce soit vrai, Marie se manifeste à elle. Elle dit même que la Vierge a déposé l'enfant Jésus entre ses bras, en lui disant « Dans votre vocation, vous prendrez soin de mon fils ». Et encore, vous prendrez soin des prêtres, qui sont les représentants de mon fils. Alors, la congrégation des servantes de Jésus-Marie prend donc naissance le 24 mai 1895. Un peu plus de 100 ans, comme vous voyez. Et dans un élan de foi, Éléonore Potvin remet sa charge de supérieure entre les mains de l'Immaculée, qui, dès lors, devient, pour ainsi dire, à ses yeux, l'abbesse incontestée de l'Institut. Alors, l'abbé Manger, en lui, en est le guide, l'animateur spirituel. Il y a de graves difficultés, évidemment, qui ne tardent pas à surgir. C'est toujours comme ça dans les fondations. Les forces me manquaient, écrit l'abbé Mangin. Je me jetais sur mon lit et j'ai resté quelque temps dans une véritable agonie. Soudain, poussé par je ne sais quelle force invisible, je cours à ma table de travail et ouvrant au hasard le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, je tombe sur ces paroles d'un cantique justement du Bienheureux de Montfort. Elle me dit dans son langage, « Courage, mon enfant, courage, je ne t'abandonnerai pas. Mais quand bien même j'aurais vu la Sainte Vierge, dit-il, je n'aurais pas été plus sûr de son encouragement et un flot de joie, de confiance et de paix remplit mon âme. » Et à l'instant, la tentation de découragement est disparue. Les difficultés cessèrent de me paraître insurmontables. Alors, cette fondation, qui est la dernière étape de la vie, on peut dire, de prêtre, de M. Mangin, est celle où se manifeste, on peut dire, avec plus de transparence, sa piété à l'égard de Marie. Le nom choisi pour le nouvel institut en rend déjà témoignage, hein, servante, à la suite de la Vierge de Nazareth, qui était comme servante, mais servante dans le beau sens, et rendre service, hein. Jésus, Marie, avec un trait d'union, hein, pour signifier à quel point Jésus et Marie sont inséparables, les servantes de Jésus-Marie. C'est inséparable, ça, dans la pensée puis le cœur des cérémoniales, de ses sœurs. Avec profonde conviction, donc, le fondateur répète, on ne va à Jésus qu'en passant par Marie, car pour trouver la fleur, ben, il faut chercher la tige. Il est donc novateur avant le concile, l'abbé Mangin, parce qu'il puise sa dévotion mariale à la source liturgique et non pas dans des petites dévotions puis des petites fleurettes. Pas du tout. De pratiques extérieures, il en conseille très peu, pas son genre. Il y a les litanies de la Sainte Vierge qui sont si belles, vous les connaissez, j'espère, qui sont chantées le samedi. Puis le petit office de la Sainte Vierge, c'est comme un office de bréviaire, ça, qui est remplacé plus tard, justement, par la psalmodie même du bréviaire, il va vers l'essentiel. L'Angélus, que nous récitons ici à Radio Ville-Marie à midi, le récitez-vous avec nous. Laissez tout réciter. Et avant tout, le rosaire récité la nuit aussi. Il y tient. Alors, c'est l'heure de composer un directoire spirituel pour son institut. Alors, l'abbé Mangin a l'heureuse idée de céder la parole à Marie. Et par sa voix maternelle, bien d'infuser un esprit à sa communauté. En voici, on pourrait dire, l'essence, un résumé. Marie écoutait nuit et jour l'Esprit Saint prier en elle, écrit-il. Sa vie était une copie exacte de celle de Jésus, dont elle fut la fidèle associée dans l'œuvre de la rédemption. Elle communiait à tous ses sentiments, à ses douleurs, comme à ses joies. Elle était toute compassion, toute louange et toute docilité à l'Esprit Saint. Marie cherche des âmes douces et humbles comme elle pour continuer sa mission sur la terre. La servante de Jésus-Marie doit reproduire l'esprit de Nazareth, tous les instants de sa vie, tous les mouvements de son cœur, de son esprit, de son corps, doivent être pour Jésus vivant dans l'Eucharistie et dans ses prêtres. Apprendre à connaître et à imiter Marie pour parvenir à la connaissance et à l'amour de Jésus, tels sont les enseignements du fondateur. Par quels moyens? En accompagnant Jésus pas à pas, avec Marie, en tout son mystère qui déploie la Sainte Église dans le cycle de l'année liturgique. Alors ce fondateur, l'abbé Mangin, ne suggère pas de méthode de raison compliquée, mais simplement la méditation des Écritures de la Bible en union avec la Sainte Vierge. Il cite Saint Luc, chapitre 2, « Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Tous les gestes, toutes les paroles de Jésus, elle les assimilait dans la foi. » Alors la servante de Jésus-Marie doit faire ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture spirituelle avec Marie. Elle doit chercher à pénétrer dans son intérieur pour y découvrir ses sentiments intimes, en partant du texte sacré, comme faisait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui connaissait tellement bien son Nouveau Testament. Comment la Sainte Vierge comprenait-elle psaume? Il faut se poser la question. Comment la Sainte Vierge comprenait-elle parole de la Bible à tel moment précis de sa vie? Comment elle en vivait? Se poser ces questions et rentrer dans l'âme de Marie au fond. Et sous sa conduite, puis à son image, mais s'efforcer de reproduire au pied de Jésus, hostie, exposé dans le Saint-Sacrement ou qui est dans le tabernacle, mais exposer et reproduire les actes de foi semblables à ceux de Marie, d'espérance et d'amour. D'amour, oui. Les élans de sa charité envers tout le monde. Son ardeur aussi qu'elle avait, la Vierge, et qu'elle a toujours, pour la sanctification des âmes. La sanctification des âmes. Puis sa compassion. Puis sa tendre pitié pour les pécheurs. Alors la doctrine mariale de ce fondateur émerge à travers ces lignes très, très denses. On dit souvent, on meurt comme on a vécu. Rien de plus vrai en ce qui concerne la grâce mariale de l'abbé Alexis-Louis Mangin. En février 1920, tout jeune encore, âgé de 63 ans, il est atteint de la grippe espagnole et ses jours sont comptés, mais sa lampe reste allumée. Et alors, considérez bien, dit-il, une grande perfection peut contenir un petit cœur de servant de Jésus-Marie. Cette grande perfection, c'est le travail du Saint-Esprit par Marie. Ah, voilà pourquoi un petit cœur de servante de Jésus-Marie peut contenir une si grande perfection. Alors ça, c'est le testament, on peut dire, d'un père. Et le 25 février 1920, veille de son départ, il dit encore, « Ma méditation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ tout seul, rien que lui, c'est tout. » Mais combien il faut s'oublier soi-même pour cela. Et la Sainte Vierge travaille à cela, nous faire nous oublier nous-mêmes. Alors dans la soirée, alors qu'il devient plus mal, il est ému. On est ému de l'entendre murmurer, « Je viens de finir de méditer l'obéissance du cœur de Jésus, son obéissance à Marie, oui, en répétant Marie, il a une expression de tendresse inexprimable. » Et le 26 février, un peu après minuit, il dit, « Maintenant, j'ai fini d'expliquer le règne du Saint-Esprit dans les âmes, son action quotidienne par Marie, sous l'influence de la Sainte Liturgie. » Peu après, il rend le dernier soupir. C'était son dernier souvenir.